10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, très chers auditeurs. Nous vous retrouvons enfin, Antoine, Rémi et moi-même, pour cette nouvelle année qui s'annonce chargée d'actualités internationales avec la Tunisie, la Biélorussie, l'Égypte et j'en passe.
Absolument, Thibaut. Et pour commencer cette année, nous vous proposons un LMNSP un peu particulier. C'est un LMNSP en deux épisodes avec aujourd'hui la revue de presse.
Et vendredi, vous pourrez retrouver le grand entretien que nous consacrerons à la Tunisie en direct sur notre site transistor.fr. Branchez-vous dès 14h pour nous écouter.
Aujourd'hui, nous partons tout de suite pour la Corée avec Antoine qui va nous parler de Kim Jong-il qui prépare en ce moment sa succession avec son fils.
Effectivement, Rémi, quand on évoque la Corée du Nord, certaines images vous viennent à l'esprit. On imagine des rues grises parsemées de gigantesques statues du chef Kim Jong-il qui sont autant de symboles du culte de la personnalité que le régime impose. On imagine une population opprimée, mais résignée, prisonnière et isolée, qui ignore ce qu'il y a de l'autre côté des frontières. Bref, dans notre imaginaire, ce pays semble, en 2011, n'être qu'un anachronisme historique hérité du stalinisme et en proie à un total immobilisme. Oui, rien ne semble changer. En ce moment, Kim Jong-il prépare son fils de 27 ans, Kim Jong-un, à régner après lui. Et Kim Jong-il était déjà lui aussi le fils de Kim Il-sung. Donc depuis la création de cet État au début des années 1950, une même famille dirige d'une main de fer et sans partage. Et depuis l'armistice mettant fin à la guerre de Corée en 1953, il y règne un climat de guerre larvée. Récemment encore, le 23 novembre, la Corée du Nord a attaqué une petite île sud-coréenne en mer Jaune, car elle la considère comme sienne.
Donc si je comprends bien Antoine, la Corée du Nord se rapproche quand même de l'idée qu'on s'en fait ?
Eh bien justement, pas exactement. Dans un article du numéro de janvier du Monde Diplomatique, Philippe Pont montre que si la politique ne change pas, la société, elle, s'éveille et connaît un vrai bouillonnement qui a plusieurs causes. D'abord, ce sont des causes qui sont politiques et administratives. Le régime apparaît comme très fragilisé. L'agriculture connaît des problèmes structuraux et la population dépend de la Chine pour pouvoir se nourrir. Le système de santé, par ailleurs, s'est effondré et la famine est devenue depuis 1995 un problème récurrent. Même sur le plan politique, les spécialistes s'accordent à penser que le jeune Kim Jong-un n'aura pas l'autorité de ses parents. Il est d'ailleurs prévu qu'une direction collégiale centrée sur la famille de Kim exerce le pouvoir. Ensuite, les causes sont sociales et économiques. Devant la faiblesse de l'État, une économie parallèle est née, devenant une économie de marché par défaut, comme le note Edsel Smith, un spécialiste américain. À tel point qu'en 2002, le régime s'est réformé en libéralisant les prix, ce qui est une reconnaissance de facto de sa faiblesse. Depuis, il a essayé de reprendre la main sans jamais y parvenir, et cette libéralisation a créé une nouvelle couche sociale qui s'intègre aux classes privilégiées, sans toutefois appartenir à l'élite traditionnelle. Ce sont des commerçants, des négociants, des colporteurs et des affairistes. La société enfin s'ouvre. La famine a provoqué un exode vers la Chine et les Nord-Coréens s'ouvrent donc davantage sur les pays étrangers. Et grâce aux nouvelles technologies, l'État stalinien est en train, à en croire cet article, de perdre le contrôle de l'information. Et c'est peut-être le plus grave pour l'administration nord-coréenne.
Bah, pourtant, j'imagine mal cette dictature ne pas réagir face à cette population de 23 millions d'habitants qui, d'après ce que tu dis, est en train de lui échapper. Quels sont les moyens pour l'administration nord-coréenne d'éviter l'effondrement ?
C'est sûr, on ne s'attend pas de la part de la dynastie Kim à ce que brutalement les préoccupations du peuple soient prises en compte. Mais pourtant, la marge de manœuvre est très étroite. La Corée du Nord est isolée sur le plan diplomatique. Son seul allié est la Chine. C'est sur elle désormais que le régime se repose. Elle représente désormais plus de 70% des échanges extérieurs. Mais cet appui risque de coûter encore plus cher à la dictature coréenne. En perdant son indépendance, elle risque de devenir un état satellite de la Chine. La Chine, quant à elle, a une certaine tradition diplomatique vis-à-vis de la Corée du Nord. Comme le souligne M. Choi Chun-hum, la priorité stratégique de Pékin, c'est la stabilité. C'est pourquoi la question nucléaire aux yeux des Chinois est secondaire. La Chine est d'ailleurs en train de mettre en place une stratégie pour prévenir l'instabilité de l'ère post-Kim Jong-il. Elle noyaute l'économie et les ressources du pays afin que, si le régime tombe et que le Nord fusionne avec le Sud, la Chine garde la prédominance dans la région, devant les intérêts grandissants que pourraient alors avoir les États-Unis. Mais l'effondrement du régime provoquerait un fort afflux de population en Chine, et Pékin ne veut pas, pour sa stabilité, d'une zone comme au Xinjiang, par exemple, où l'influence d'une nation étrangère pourrait être forte. Tant que la dictature nord-coréenne sert la stabilité de la Chine, celle-ci lui accordera son soutien et n'aura de cesse d'en faire un état satellite. Et pendant ce temps-là, la société nord-coréenne bouillonne toujours.
Deuxième étape de cette revue de presse, nous partons en Côte d'Ivoire où nous étions allés avant les vacances en compagnie de Boris Gobille. Et là, Rémi, tu vas partir de ce pays pour nous parler de l'Union africaine.
Oui, Thibaut. Il y a bientôt 2 mois, on évoquait ici même la crise politique ivoirienne. Bon, un petit rappel des faits. À l'issue du second tour des élections présidentielles, tant attendues de novembre dernier, la victoire est remportée par Alassane Ouattara, l'ex-premier ministre, face au président sortant Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis 10 ans. Seul problème, Laurent Gbagbo refuse de reconnaître la victoire de son adversaire et de mettre la clé sous la porte. Et ce pauvre Ouattara n'a plus qu'à se payer une chambre à l'hôtel du Golfe. En analyste scrupuleux, et par souci de rafraîchir un peu les informations données lors du dernier numéro de LMNSP, dressons un bilan. Alors, que s'est-il passé pendant que nous étions absents des ondes? Eh ben, rien, en fait.
Enfin, n'exagérons rien, Rémi, la situation a bien dû évoluer un tant soit peu.
Bon, rien, ou presque rien. On retrouve Laurent Gbagbo au pouvoir, toujours au palais présidentiel d'Abidjan. Son autorité est plus confortée que jamais, et ce malgré les innombrables discours, prises de position, coups de pression et négociations menées par les autres États africains, la France ou l'ONU. Résumons rapidement ces développements de l'affaire ivoirienne. Nous vous avions laissé, chers auditeurs, avec le sud-africain Thabo Mbeki, envoyé par l'Union africaine pour trouver une solution à la crise. Sans succès. Se présentent ensuite en Côte d'Ivoire 3 chefs d'État africains mandatés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Le béninois Boni Yayi, le capverdien Pedro Pires et le président du Sierra Leone, Ernest Koroma. Et toujours aucun résultat. Ces 3 chefs d'État reviennent à la charge début janvier, accompagnés cette fois d'un soutien supposé de poids en la personne de Raila Odinga, le premier ministre kényan, venu pour représenter l'Union africaine. Et jamais 203. Après avoir rencontré les 2 rivaux, ils ont dû se rendre à l'évidence, Laurent Gbagbo est bien prêt à se passer de la reconnaissance de ses électeurs, ainsi que de celle de la communauté internationale. Alassane Ouattara a déclaré de son côté, le 22 janvier, qu'aucune négociation n'était plus possible. Comme si chaque tentative de négociation ne faisait que conforter les 2 rivaux dans leur position. Quant à l'éventuelle intervention armée proposée notamment par le Nigeria, elle n'est pas encore à l'ordre du jour.
Alors on vient de voir beaucoup de monde intervenir dans cette affaire, et on a un peu l'impression d'une immense cacophonie. Alors qui serait, parmi tous ces gens, le mieux placé pour agir?
Eh bien Thibaut, c'est tout le problème. Qui, en Afrique, dispose d'une autorité et d'une légitimité nécessaires pour distribuer les bons et les mauvais points? On serait tenté de citer ici l'Union africaine, qui nous apparaît comme un relais des Nations unies à l'échelle du continent, ou encore comme la cousine africaine de l'Union européenne. L'Union africaine, d'ailleurs, qui vient de tenir ce week-end son 18e sommet à Addis Abeba, en Éthiopie. Mais au vu des nombreux conflits qui secouent les États africains, en dehors du seul cas ivoirien, on peut mettre en doute sa capacité à gérer les crises. Le quotidien burkinabé, l'Observateur Paalga, ne s'en prive pas d'ailleurs. Il établit la liste des préoccupations à l'ordre du jour de ce sommet, et l'Union africaine a bien du pain sur la planche. La crise ivoirienne, mais aussi la question du Soudan, où les tensions se radicalisent entre le Nord et le Sud, Sud d'ailleurs qui est en voie de sécession, comme le confirment les premiers résultats non officiels du référendum d'indépendance qui s'est tenu du 9 au 15 janvier dernier. Mais il y a aussi le Zimbabwe qui reste sous le joug de Mugabe, ou encore l'influence croissante de l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans la bande sahélienne. Bref, une impressionnante pile de dossiers. Et selon l'Observateur Paalga, l'organisation de l'Union africaine est tout simplement incapable de résoudre un seul de ses problèmes. Et pour cause, je cite, « ils sont très peu nombreux les chefs d'État membres de l'Union africaine qui peuvent se targuer de droiture politique au point de se sentir en mesure de taper du poing sur la table et d'imposer une conduite à tenir pour la résolution de l'imbroglio ivoirien. » Et de fait, qui va rappeler à l'ordre Laurent Gbagbo? Sûrement pas Omar el-Béchir, le président soudanais. Et qui va réprimander Omar el-Béchir? Probablement pas Mugabe. Il y a donc un vrai problème de légitimité politique au sein de l'Union africaine, provenant d'un décalage entre le discours de l'institution et les pratiques de ses représentants dans leurs pays respectifs.
Et ces pratiques, qui posent tout le problème, elles sont douteuses.
Eh bien, c'est l'avis de l'éditorialiste de l'Observateur Paalga. Un avis peut-être un peu trop tranché. On ne peut pas rejeter ainsi la faute sur l'ensemble des chefs d'État africains. Bon, on ne peut pas nier que les choses vont mieux dans certains pays que dans d'autres. Au-delà des problèmes de personnes, le problème vient peut-être aussi de l'institution en elle-même. Parlons-en de cette institution. C'est sous l'impulsion de Haïlé Sélassié, le dernier des empereurs d'Éthiopie, qu'elle a vu le jour en 1963 à Addis Abeba. Dans la rhétorique du négus, comme dans celle de nombreux chefs d'État adhérents, c'est un idéal panafricain qui prévaut. On veut réveiller le géant africain. La nouvelle institution se dote d'une charte inspirée par celle de l'ONU. Il s'agit de promouvoir les droits de l'homme, d'éliminer l'héritage colonial et d'harmoniser les politiques des États dans tous les domaines. Mais derrière ce discours unificateur, les principes fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine lui donnent peu de moyens d'action réelle à l'échelle des États, puisque la non-ingérence et le droit de chaque État à une intégrité territoriale et à une souveraineté indépendante sont affirmés comme des principes intangibles. Mais que faire quand un État se divise? C'est un problème qui n'a guère été envisagé, et qui pourtant s'est posé plus d'une fois en Afrique depuis les indépendances. Au-delà de la rhétorique du non-alignement et de l'africanisme, qui sont de moins en moins d'actualité, tandis que les relations de chaque pays africain avec le reste du monde se complexifient, comment penser une réelle politique continentale africaine? L'Organisation de l'Union africaine mène une politique indéniablement efficace, dans les domaines de l'hygiène, de la culture, de la lutte contre la pauvreté, mais elle reste une force politique extrêmement faible. Tout le défi est donc de construire un pouvoir politique assez fort pour protéger chaque État des menaces extérieures, l'intégration parfois violente et difficile au circuit de la mondialisation, par exemple, et aussi les menaces intérieures, les logiques de morcellement à l'œuvre aujourd'hui dans plusieurs États. Mais sur quoi? Sur quel type de désir ou d'héritage partagé cette communauté politique devra se fonder? Eh bien, la question reste ouverte, et peut-être bien pour longtemps.
Très bien, Rémi, merci pour nous avoir donné des nouvelles de cette région qui n'est pas prête, visiblement, de trouver une solution à cette crise. Thibaut, tu nous emmènes où?
Eh bien, je vous emmène en Afrique du Nord. L'Afrique du Nord qui n'était pour bon nombre de Français qu'une destination de vacances paradisiaques, voilà encore quelques jours. Eh bien, le nord du continent africain est soudain redécouvert. La Tunisie et l'Égypte sont au centre de toutes les attentions, et les rédactions ne savent plus où donner de la tête. Alors la Tunisie, nous en parlerons nous aussi, vendredi en direct, avec une étudiante tunisienne présente au début des événements, Antoine le rappelait au début de l'émission. Mais je voudrais ici revenir sur un autre de ces pays, un pays dont on ne parle pas, et qui fait l'objet d'un reportage tout à fait atypique, vu le contexte actuel, dans le numéro d'hiver de la revue 21.
Ce pays, c'est l'Algérie, et l'angle de vue est particulier en cette période agitée.
Oui, à l'heure où l'on s'interroge sur la nature des liens franco-tunisiens, ou encore sur le rôle que doit jouer la France en Égypte, le trimestriel s'intéresse aux quelques Français qui ont refusé de quitter ce qui était en 1962 un département français. On vient à la rencontre de M. Lopez, fils d'un important producteur d'huile d'olive, reconverti dans le champignon de Paris, ça ne s'invente pas, qui refuse d'abandonner son père et vit aujourd'hui avec sa vieille femme, à moitié folle, qui aurait voulu partir. On écoute ensuite l'histoire de Germaine, restée à la tête de son restaurant, ce qui lui a permis de se débarrasser d'un mari qu'elle n'aimait pas beaucoup. On croise également André, producteur et négociant en vin, qui mène une vie paisible. Tous ont expérimenté la difficulté d'être français en Algérie. Cela commence par l'interdiction d'exercer certaines activités, l'impossibilité de demander la citoyenneté algérienne et donc de devenir propriétaire de sa maison, ou encore les jours d'attente un peu angoissés lors des demandes décennales de renouvellement des cartes de séjour, qui arrivent toujours au dernier moment, comme si l'administration jouait avec les nerfs de ceux qui ne se sentent plus vraiment français, si tant est que ça n'ait jamais été le cas pour certains d'entre eux. Ils ont aussi vécu l'influence grandissante des islamistes, ce qui leur a parfois valu des menaces ou des interdictions, par exemple celle de vendre ou de commercialiser de l'alcool. Alors, à la lecture de cet article, on ne sait pas très bien que penser de cette situation, juste retour des choses ou pas. Certains en veulent à De Gaulle, d'autres aux communistes, et on ne sait donc pas qui a tort et qui a raison. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la manière qu'ont ces Français de percevoir l'évolution de l'Algérie. Certes, ils ont vu, comme tout le monde, arriver les ouvriers asiatiques, désormais nombreux dans le pays. Mais à les entendre, rien n'a changé depuis l'indépendance. Les bâtiments, les paysages, tout ressemble à l'Algérie d'antan. Comme si, pour reprendre les termes de l'un d'entre eux, ils avaient tout gardé de la France, sauf les Français. Drôle d'image que cette carte postale, paisible, un peu nostalgique, à côté des tumultes que connaît la rive sud de la Méditerranée. Voilà, c'est la fin de cette émission, un peu courte, merci de l'avoir suivi. Le voyage fut bref mais intense, et je vous rappelle que nous nous donnons rendez-vous vendredi à 14h en direct pour le dossier de la semaine.
Nous évoquerons avec une étudiante tunisienne les événements récents et étonnants qui ont fait plier les régimes autoritaires de Ben Ali. D'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien.
En espérant que jamais le monde ne vous suffira.